Préparant cette émission, j'ai pensé à tous ceux qui affirment « c'était mieux avant ». J'y ai pensé parce que cette heure de Pop & Co est une plongée dans les années 80. La décennie du sida, une vague d'attentats à Paris, ou la catastrophe de Tchernobyl dont les nuages radioactifs s'étaient arrêtés pile à nos frontières, évidemment. Bref, rien de vraiment radieux. Une partie de la pop musique a écrit la bande-son de ce désenchantement, sans renoncer à nous faire fredonner, sans renoncer à nous faire danser sur la piste. Mais avec des chansons qui sont autant de moments où on se dit « tiens, il ou elle est comme ça aussi ». Le répertoire du groupe The Cure boxe dans cette catégorie, avec des textes qui vomissent parfois le monde tel qu'il est ou qui inventent une bulle pour y échapper. À la fin des années 70, The Cure a créé une musique, inventé un son que rien n'amarrait au passé, ou si peu. Et Robert Smith, pilier central du groupe, a imposé la silhouette d'un homme aux lèvres maquillées d'un rouge qui bave. Une icône qui a largement dépassé le cadre de la musique pour descendre dans les cours de lycée. Jusqu'à midi, on plonge dans 10 années de répertoire des Cure, de 1978 à 1989, avec une citation d'Albert Camus pour Viatic. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter. Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Ça se passe à la fin des années 70. Pas à Londres, pas à Manchester ni Liverpool, mais où alors ? The Cure est né à Crowley, ville champignon construite après-guerre, dans le Sussex. Lawrence Tolhurst, l'un des membres fondateurs du groupe, décrit Crowley comme ça dans son autobiographie. C'est une petite bourgade à moins de 25 bornes au sud de Londres, mais ça pourrait tout aussi bien être une autre planète. C'est une ville qui n'a ni centre ni fin. Un endroit sans espoir ni avenir, mais avec beaucoup d'ennuis. Notre pub s'appelait le Rocket. Et quand on avait plus de 16 ans, on avait le droit de commander de l'alcool. Le gouvernement fermait les yeux là-dessus, parce que c'était un bon moyen d'anesthésier les populations dans ce climat froid, gris et déprimant. Plus facile de les amadouer et de les contrôler s'ils sont sous, voyez-vous. Au Rocket, Lawrence Tolhurst retrouve un certain Robert Smith pour boire des coups. C'est là qu'ils donneront leur premier concert avant de devenir The Cure. Dans ce pub traînent tous les jeunes révoltés de Crowley, les hippies, restés coincés dans les années 60, les skinheads, issus de la classe ouvrière, et eux. Tout ça finissait souvent en baston. Et Lawrence Tolhurst conclut « Pas facile de grandir dans l'Angleterre de la fin des années 70 ». TF1, il est 13h, l'heure du journal. Nous sommes le 21 janvier 1979. Jean-Claude Bourret apparaît dans les télés de France.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. En Grande-Bretagne, la situation est toujours catastrophique en raison de la grève des camionneurs qui continue. Les industriels britanniques ont demandé la proclamation de l'état d'urgence, mais le gouvernement de monsieur Callaghan n'a pas encore pris de décision en ce sens. De Londres, l'envoyé spécial permanent de TF1, André Sélarié.
Un climat de grève générale plus l'hiver, la vie n'est pas rose en Angleterre et je ne vous conseille pas d'y venir en week-end pour le moment.
Les ouvriers et employés britanniques demandent des augmentations 6 fois supérieures à ce que veut accorder le gouvernement qui brandit le spectre de l'inflation. À la grève des transporteurs s'ajoutera celle de plus d'1 million d'éboueurs, gardiens d'école, nurses, ambulanciers. Les ambulanciers ont prévenu qu'ils ne répondront à aucun appel.
Peux-tu m'aider ? Peux-tu m'aider ? C'est l'un des vers d'une des premières chansons enregistrées par The Cure, intitulée « Three Imaginary Boys ». Et Robert Smith chante « Je suis effrayé par ce que le matin apporte. Au fond de moi, un sentiment de vide. La nuit ne me laisse plus que 3 garçons imaginaires. » Lawrence Tolhurst est à la batterie, Robert Smith au chant et à la guitare et Michael Dempsey à la basse. Dempsey était aussi gardien dans un hôpital psychiatrique. Il y en avait beaucoup dans la région de Crawley. Le groupe a même été embauché pour animer le dîner du Nouvel An d'un de ses établissements. Ils étaient censés mettre l'ambiance et faire danser les gens. Autant dire que ça s'est mal passé. Certains samedis, les patients des hôpitaux étaient autorisés à sortir et on les croisait dans les rues de Crawley. Dans son autobiographie, Lawrence Tolhurst écrit « Certains d'entre eux portaient des vestes au-dessus de leur tête comme pour se protéger du monde. On a vécu au milieu de tout ça. Si on était né au centre de Londres, on ne serait pas devenu les Cure et notre son aurait été différent. » Le groupe n'a pas trouvé son nom tout de suite. Au départ, ils s'appelaient Malice. Mais leurs premières prestations furent tellement catastrophiques qu'ils se sont dit « changer de nom, c'est mieux ». Alors ils ont écrit des mots de paroles de chansons sur des bouts de papier, ils les ont mélangés dans un chapeau et ils ont tiré au sort. Et là, Robert Smith a lu « Easy Cure », remède facile. Robert n'aimait pas, ça sonnait trop baba cool. Ce sera donc « Cure » qui claquait plus punk. D'ailleurs, la première phrase de l'autobio de Lawrence Tolhurst, c'est celle-ci. Robert et moi étions les premiers punks de Crawley. Cette chanson s'intitule 10-15 Saturday Night. Elle figure sur le premier album de The Cure et dans le livret Robert Smith raconte « Je l'ai écrite dans la cuisine de mes parents. Je regardais le robinet qui goûtait, j'étais d'humeur morose et je buvais la bière que mon père brassait. Ma soirée était tombée à l'eau et j'attendais que le téléphone sonne en m'apitoyant sur mon sort. »
Vraiment, j'en ai un souvenir physique. C'est pas possible, c'est incroyablement bien leur truc.
Je vous présente Richard Bellia, il est photographe et ça fait 40 ans que The Cure passe devant son objectif.
Je suis lorrain et The Cure ont fait plusieurs concerts en Lorraine au tout début des années 80. Je m'étais acheté un appareil photo et je leur ai dit « Bonjour, il faut qu'on fasse quelque chose là. »
Comme ça, vous les avez vus, ils vous plaisaient et vous êtes allés.
C'est très exactement ça. Et en fait, il s'est même passé un truc, c'est qu'en fait, Robert Smith, il m'a donné une adresse, ils avaient une boîte aux lettres pour écrire. Et en fait, à chaque fois que je lui envoyais des photos, il me répondait, il me disait, putain, elles sont super bien tes photos, merci, et tout ça. Mais ils étaient en tournée, donc je recevais des lettres de Cure qui arrivaient, mais de partout sur Terre. Le mec, il était en tournée à l'hôtel, il faisait son courrier, quoi. Ouais, c'est comme ça qu'on est devenus potes, quoi. Enfin, vraiment, je lui ai écrit, puis il me dit, c'est bien, puis on recommence, et puis ça fait 40 ans qu'on fait ça, quoi.
Alors, il y a votre vie photographe et puis il y a votre vie personnelle, d'amoureux de la musique. Dans cette vie personnelle-là, The Cure, il représente quoi ?
Ce qui m'a plu, c'est le côté pas bavard. Le côté mecs qui ont quelque chose à dire et qui vous le disent et qui en font pas des caisses. S'ils ont 25 minutes à nous mettre dans la gueule, on se les prend bien propres et waouh ! Je trouve que Cure, c'était ça. C'est-à-dire que les mecs, ils vous faisaient pas perdre de temps. En fait, voilà, c'est... Un des musiciens de The Cure qui s'appelle Michael Dempsey, qui m'en avait parlé spécifiquement, en me disant « Vraiment, on savait pas faire grand-chose, on le savait et on s'y est tenu. On se tient à ce qu'on sait faire. Et puis, en avoir rien à foutre de ce que disent les autres, ça m'a bien plu aussi, ça. »
Nouvel extrait de l'autobiographie de Lawrence Tolhurst, membre cofondateur du groupe. À la fin des années 70, il n'en fallait pas beaucoup pour sortir du lot dans notre bled. La conformité régnait partout. Être différent, c'était s'émanciper, s'extraire de la masse. Et c'était là un affront aux bonnes manières britanniques. Dans le cerveau peu développé des enfants, des hommes, des cavernes qui peuplaient le Sussex, tout ce qui dépassait le cadre de leur compréhension était considéré comme de la perversion, de l'anormalité. Pour eux, on était tout simplement des tapettes. On s'en foutait pas mal. On ne croyait pas aux stéréotypes.
C'est vrai que c'est une musique qui se construit d'abord sur un refus.
Voici Alexandre Breton, professeur de philosophie et journaliste pour le magazine Rock and Folk.
C'est vrai que c'est une musique qui se construit d'abord sur un refus. Ça provient quand même du punk, c'est-à-dire que c'est d'abord un non. Ça traduit d'abord par un refus de toute une génération de musiciens, même si en fait, bon, ils ont été quand même nourris aux Stones, aux Beatles, à Cream, à Jimi Hendrix, etc. Mais Je crois que c'est un groupe qui s'est défini par la détestation de ce que le rock'n'roll était devenu, c'est-à-dire ce que Smith appellera ces monstres gras, bouffis. C'est-à-dire, il critiquait ce côté très sérieux du rock. On a une mission, on fait du rock'n'roll. C'est toujours ça chez Robert Smith. C'est un sale gosse. Hein. C'est, on va être un peu la mauvaise conscience de ce rock devenu gras, épais, et qui n'a plus grand-chose à raconter, finalement. Donc, c'est l'arrivée des mauvais garçons. Ce qui réintroduisent, en tout cas, c'est sûr, et qui peut-être est une manière de renouer à quelque chose de plus primitif. C'est cette espèce de tension, de nervosité, de tension, de fébrilité, mais d'incandescence aussi.
Non, The Cure aussi se l'est beaucoup entendu dire à ses débuts. Le premier label discographique qu'il contacte pour enregistrer un disque s'appelle Hansa. Ils l'ont repéré grâce à une pub parue dans le journal musical Melody Maker, et cette pub disait « Vous voulez devenir une star ? Bougez-vous le cul, tentez votre chance. » Hansa, le plus grand label allemand de pop qui vous a fait connaître Boney M et Donna Summer, cherche de nouveaux talents en Angleterre. The Cure a donc tenté des débuts dans l'industrie du disque avec le label de Boney M. Évidemment, ça n'a rien donné. La direction de Hansa se fout complètement de leurs chansons et veut leur faire faire des reprises de bluettes. Dans sa biographie des Cure intitulée Never Enough, le journaliste Jeff Apter rapporte que Hansa avait fini par conclure « Vos morceaux ne nous plaisent pas, on ne les diffuserait même pas en prison. » Rappelons qu'en ces années 78-79, les gros tubes sont... ou encore... mais aussi... bon, The Cure venait évidemment d'ailleurs. L'artiste qui a changé leur vie à eux, celui qui a indiqué un cap à Robert Smith et Lawrence Tolhurst comme à des musiciens du monde entier, s'appelle David Bowie, que voici. Nous sommes en juillet 1972 et David Bowie déboule dans la télé couleur anglaise, autant dire dans tous les foyers, avec ses cheveux rouges, sa guitare bleue électrique et son fard à paupières. Lawrence Tolhurst raconte « C'est comme si un extraterrestre avait soudain atterri à l'intérieur de nos télévisions. Bowie et son groupe de Spiders from Mars ne ressemblaient à personne d'autre et ne sonnaient comme aucun autre groupe existant. Tout, dans son attitude, criait haut et fort qu'on pouvait désormais le suivre, et qu'il nous montrerait la voie vers un autre monde, un monde beaucoup moins ennuyeux et morne que celui dans lequel on avait évolué jusqu'à présent. Bowie dégageait une sexualité androgyne, et son étrangeté nous avait tout de suite fascinés et inspirés. Le lendemain, c'était le sujet de discussion dans toutes les écoles. Quand ils découvrent Bowie, Robert Smith et Lawrence Tolhurst ont 13 ans, et Robert écrit sa première chanson à 16, avec Soviétique. Restez singulier. La première chanson enregistrée par The Cure s'intitule Killing an Arab, tuer un arabe. Aucune incitation au racisme ou au meurtre ici. Killing an Arab adapte en une chanson d'un peu plus de 2 minutes la scène centrale de L'étranger d'Albert Camus, où Meursault, le personnage principal, tue un arabe sous le soleil aveuglant d'une plage d'Alger. Meursault, anti-héros qui refuse le conformisme social, est déjà l'icône d'une jeunesse en révolte. Mais vu le titre du morceau Killing an Arab, crée tout de suite un malentendu, difficile à porter. Standing on the beach with a gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground. My mouth, but I hear no sound. I'm alive. I'm dead. I'm the stranger. Killing an Arab.
l'acte de naissance du groupe, et tout de suite ça scelle comme ça le lien retrouvé entre littérature et rock, Camus en l'occurrence, tout en étant effectivement très pop, cette manière d'infuser dans la pop toute une tradition littéraire. Ce sont des gens brillants quand même, hein, qui pouvaient citer comme ça Sartre, Smith, parle très bien de la nausée, de l'effet de sidération que va produire la lecture de la nausée. Autant que Kafka, qui va d'ailleurs servir de matériau à l'écriture de beaucoup de textes. D'un côté, il y a un malentendu. Les skinheads vont imaginer que c'est une musique qui pourra leur servir de musique fédératrice. Et pas du tout, c'est un énorme malentendu. C'est quand même lié à tout l'existentialisme dont est matinée, je veux dire, l'écriture de Robert Smith, quoi. I'm a stranger, killing an Arab.
Figure-toi que je suis au Père Lachaise. J'ai trouvé ça assez approprié. Je fais ma balade, donc je suis dans un cimetière pour parler de The Cure. C'est parfait.
Depuis le Père Lachaise, voici Jenny Beth, autrice, compositrice, interprète, qui entre dans ce Pop and Cure.
Alors moi, je les ai découverts au collège, pré-ado, quoi. J'avais une amie qui s'appelait Gaëlle, qui était une meilleure amie au collège, dont le père avait un mur entier rempli de CD. Dès qu'on pouvait, après le collège, on allait chez elle et on les écoutait tous un à un. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert les Cure, c'est comme ça que j'ai découvert Bowie, Hip Hop, enfin toute cette musique avec laquelle j'avais pas grandi, mais que finalement j'ai réécouté après, quoi, après coup. C'est vraiment une oreille très pure, hein, sans aucun contexte que j'écoutais ces albums.
Alors The Cure, justement, précisément comme vous aviez les oreilles fraîches, qu'est-ce qui vous a percuté?
Pour préparer cette émission, là, je l'ai écouté un peu des albums, parce que je n'écoute plus vraiment The Cure. C'est vraiment une musique de mon adolescence. Et là, en réécoutant, c'est ça qui est attachant, c'est le nez tranché et le minimalisme. Tout est sec, et tout est là, il y a une espèce d'équilibre un peu, qui toujours, on se demande si ça ne va pas tomber et tout ça. Un équilibre très fragile. Et je crois que c'est ça qui crée l'écoute. On a toujours l'impression que ça va se casser la gueule, quoi. Le prochain accord, qu'est-ce qui va pas marcher, quoi. Et en fait, ça tient. Et donc, il y a une tension comme ça, musicale, qui fait qu'on va jusqu'au bout, quoi. C'est très romanesque, en fait. C'est assez, d'ailleurs, beaucoup influencé par la littérature. Killing an Arab, sur le premier album, c'est directement influencé par Albert Camus. Et du coup, à la même période, moi, je lisais Albert Camus. Enfin, voilà, il y avait tout un monde comme ça qui était intéressant et qu'on a un peu perdu, je trouve, dans la musique actuelle. C'est le fait qu'écouter un artiste ouvre des portes vers une certaine littérature ou d'autres artistes, etc. Je trouve que le fait d'avoir l'air intelligent, c'était pas un tort, quoi. Enfin, intelligent, c'est pas vraiment le mot, mais dans tout cas, d'être...
Cultivé.
Ouais, d'avoir une certaine culture et d'en parler dans ses textes. Voilà, il y a un gros aspect poétique, hein, quand même, dans ses textes aussi, quoi. C'est des contes, un peu, je trouve, les morceaux de The Cure.
Dans le magazine Rock and Folk existe une rubrique intitulée « Mes disques à moi ». En août 2003, lorsque Robert Smith y participe, elle devient « Mes livres à moi ».
Boys, don't cry. Boys,
France Inter. Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Et ce matin, Pop & Co et Pop & Cure. C'est en découvrant la maquette de la chanson que vous venez d'écouter, Boys Don't Cry, qu'un néo-zélandais du nom de Chris Parry repère de Cure. Parry crée son propre label, Fiction Records, dont Cure sera l'un des piliers. Chris Parry est aussi le manager du groupe jusqu'en l'an 2000, et c'est lui qui est aux manettes de leur premier album. À l'époque, le groupe est novice pour tout, et considère qu'il n'a pas son mot à dire. Pour la pochette de leur premier disque, par exemple, Three Imaginary Boys, Chris Parry les met devant le fait accompli. L'image sera Rose Barbie, avec un frigo, une lampe et un aspirateur. Robert Smith déteste. Et Lawrence Dolhurst raconte, quand les journalistes nous posaient des questions sur cette pochette, on racontait des histoires bidons sur quel objet était censé représenter tel membre du groupe. Personne n'a jamais voulu être le frigo. Pour 17 Seconds, leur second album paru en 1980, ce ne sera pas la même. Robert Smith demande à Chris Parry de ne pas mettre les pieds en studio. Des années plus tard, Smith déclarera « Je savais exactement comment devait sonner 17 Seconds et je ne voulais que personne ne s'en mêle. Si quelqu'un voulait jouer plus d'une seule note de piano à la fois, il pouvait aller faire ça ailleurs. » Le 16 décembre 1979, The Cure joue quelques-uns des titres de ce nouvel album à la télé française. L'émission est présentée par un garçon de 26 ans, c'est Antoine Decaune.
Chorus, du toit de l'Empire où le vaccin anti-grippe n'a servi à rien, mais où on est quand même plus en sécurité qu'à un concert des Who, 37 minutes de musique live. Et pour commencer tout de suite dans Chorus, une des perles de la nouvelle musique anglaise, The Cure.
Ce jour-là, depuis le théâtre de l'Empire, The Cure interprète le morceau A Forest. Dolhurst est toujours à la batterie, Robert Smith au chant et à la guitare. Et le groupe accueille un nouveau venu, un gars qui fut employé dans une usine de plastique en même temps qu'une gloire punk de leur petite ville de Crowley. Il s'appelle Simon Gallup et participera largement à la signature sonore du groupe.
Sagan se caractérise par un côté très très minimal, dépouillé. D'ailleurs là, le son vraiment commence à sortir, ce son très... C'est-à-dire que Robert Smith n'est pas un grand guitariste à ce moment-là, mais il fait de son peu de technicité quelque chose de formidable. C'est-à-dire qu'il y a une économie de moyens, mais il y a ce son un peu liquide, aérien aussi, puis la présence de la basse qui va définir l'identité du groupe, cette basse sinueuse, très très mise en avant, la basse de Simon Gallup. C'est là où on trouve ces titres sublimes comme At Night, qui est une référence explicite à une nouvelle de Kafka. Donc toujours ce rapport, comme ça, ce branchement sur une certaine littérature.
La nuit encore, dans cette chanson A Forest, pour laquelle Robert dit s'être inspiré d'un rêve d'enfance où il se perd dans les bois. Le bassiste Simon Gallup raconte qu'il avait la sensation que le morceau pourrait ne jamais s'arrêter. Il fait 6 minutes. Chris Parry, leur manager, leur a demandé de réduire la durée, en disant que si ça passait en radio, ce serait un tube assuré. Réponse de Robert Smith, « Je vois le morceau comme ça et pas autrement. Rien à foutre que ça passe à la radio. » Jenny Beth, musicienne.
On est dans un plan séquence, on avance dans la forêt, il fait sombre, on voit une silhouette de fille, après on suit la, quelque chose de très sombre, comme ça on détermine pas trop les silhouettes, les arbres, et après on entend une voix qui appelle le nom de la personne qui chante. Donc c'est vraiment comme un cauchemar, quoi, ou comme un rêve, mais c'est un rêve dans une forêt noire. Et après on marche plus, on se met à courir. Et tout d'un coup, on s'arrête. Enfin, vous voyez, il y a toute une narration. Mais on ne sait toujours pas ce qui nous fascine. Il y a quelque chose de fascinant dans cette forêt, mais on ne décrit pas exactement ce que c'est. Et tout d'un coup, je suis seule. Il n'y a plus cette silhouette, il n'y a plus cette voix, il n'y a plus cette personne. Et la fille n'était jamais là. C'est très cinématographique, au final, très visuel. Voilà, on peut imaginer les odeurs de cette forêt. Donc, on fait appel au sens, à tous les sens. C'est une œuvre d'art, quoi. C'est...
Nous sommes au début de la décennie 80. Et que se passe-t-il dans ces années-là? La guerre Iran-Irak éclate. Margaret Thatcher est installée au poste de première ministre en Angleterre. Les épisodes de Dallas arrivent à la télé française. Le 18 mai 1980, on apprend le suicide par pendaison de Ian Curtis, chanteur du groupe anglais Joy Division. C'est à ce moment-là, entre 1980 et 1983, que The Cure va sceller son destin discographique en publiant 3 albums à la suite. 3 disques qui forment une trilogie sans que ce soit l'intention de départ. On l'appellera la trilogie New Wave, la trilogie glacée ou la trilogie du désespoir. Alexandre Breton, journaliste à Rock'n'Folk.
Il y a quand même cet élément du dégoût du monde. Ce dégoût, c'est aussi la difficulté d'y trouver une place, en tout cas de s'y sentir en adéquation. Il y a une lente descente aux enfers. Et puis ça se termine, effectivement, en 82, avec cette espèce de maelstrom sonore, cet album rouge, rouge sang. Alors, la pochette de l'album était censée représenter Marilyn en combustion, en enfer. C'est une drôle de légende, mais effectivement, là, il y a quelque chose d'une dramatisation, d'ailleurs, dont le groupe ne sortira pas indemne. Il va se séparer en 82. Enfin, le groupe a cessé d'exister officiellement en 82. C'est vraiment la descente jusqu'au fond du désespoir. Effectivement, c'est pas des albums qui vont se vendre par millions, certainement pas, mais qui vont véritablement marquer l'image, l'idée, la représentation que l'on se fera de ce groupe-là. Il vient de là. Et de toute façon, toute la discographie ultérieure n'arrêtera pas de garder en mémoire ces 3 années-là. C'est l'acte de naissance du groupe en termes d'identité sonore, musicale et puis littéraire. Donc il y a quelque chose là comme une reprise incessante de ce qui a été fait là et dont, à mon avis, Robert Smith ne revient pas vraiment.
En 1981, The Cure publie l'album Faith, et il y a ce morceau qui s'intitule Funeral Party. Ça fait penser au générique de la série Twin Peaks de David Lynch. Sûr que son compositeur Angelo Badalamenti a dû écouter Funeral Party, avec Robert Smith et sa voix de noyé.
Qui est dans le conflit frontal. Il est en conflit avec l'époque, certainement, mais dans ce repli mélancolique. Alors on peut imaginer que la mélancolie est déjà une réaction à l'époque, mais c'est une réaction endeuillée, c'est une réaction de repli.
C'est pas combatif,
c'est combatif avec d'autres outils. C'est que ça va quand même produire une résistance, à mon avis, une résistance peut-être sombre à ce monde, mais pas dans l'attaque frontale, évidemment, pas comme les punks vont s'y employer, effectivement. On va pas détruire des salles, on va pas gribouiller des murs, mais une chose certaine, c'est qu'on refuse ce monde-là. Bon, après, il y a aussi des potentialités quand même assez incroyables, c'est-à-dire que c'est des potentialités de rêverie. Ce que cette musique-là propose, dans une certaine mesure, ce sont aussi des poumons d'imaginaire. Et peut-être que là, il y a quelque chose de l'ordre d'une résistance à ce monde.
1982, paraît l'album Pornographie, où il n'est plus du tout question de rêverie. Dans sa bio des Cure, le journaliste Jeff Apter dit que c'est un disque à ne pas mettre entre toutes les mains. D'ailleurs, ça commence avec ces mots-là. Peu importe si tout le monde meurt. Au moment de l'enregistrement du disque, Robert Smith déclare « Quitte à en finir, autant que ce soit dans un grand bang ».
Beaucoup d'alcool, des acides, de la cocaïne bien sûr énormément, de l'héroïne très probablement, enfin du LSD, beaucoup de drogues qui vont avoir un effet immédiat sur l'écriture, qui est une écriture de flash, qui est une écriture qui jusqu'à 83, disons, 83-84, avec une écriture très hermétique, fragmentaire, faite d'images comme ça, qui sont comme des saillies. Et puis, je me souviens très bien d'une interview en 1989 pour Télérama, où Robert Smith disait, voilà, je vais sortir de cette écriture très sombre, fermée, comme ça, chiffrée, hermétique, pour quelque chose de beaucoup plus direct. Mais les drogues vont avoir une influence, bien sûr, ils sont des consommateurs de bière, ils sont quand même des Anglais. Enfin, Robert Smith voulait être un joueur de football et il passait le plus clair de son temps au pub. Mais tout ça n'explique pas complètement la qualité de l'écriture. On peut boire et prendre des drogues et écrire des choses absolument misérables.
À l'issue d'un concert à Strasbourg, en mai 1982, la tension est telle au sein du groupe que Robert Smith et Simon Gallup, le bassiste, finissent par se battre. Le lendemain, Lauren Stallhurst, batteur, découvre qu'il est tout seul. À un moment, il pense remplacer les deux autres par des copains qui porteraient des perruques sur scène pour pouvoir continuer la tournée. Finalement, il abandonnera l'idée dans un éclair de lucidité. Mais quoi faire après ça? Tout arrêter ou continuer autrement? Robert Smith va choisir la deuxième option. Quelques années vont s'écouler avant que ne se reconstitue un groupe flamboyant. Avec Stallhurst, toujours, Simon Gallup, de retour, et notamment Boris Williams à la batterie. Désormais, la mélancolie ne serait plus désastreuse, elle serait dansante, pop et célébrée. En 1985, paraît un album sur lequel figure ce morceau, In Between Days. C'est l'une des chansons de la bande originale d'un long métrage de François Ozon. Au départ, son film devait s'intituler Été 84. Mais quand il contacte Robert Smith pour lui demander s'il peut utiliser la chanson, Smith dit non, parce que le morceau est sorti en 1985 et pas 84. François Ozon a finalement appelé son film Été 85, exprès pour obtenir cette chanson qui a marqué son adolescence.
Extraordinaire.
Michel Drucker aussi participe à ce Pop and Cure. En 1986, il reçoit le groupe dans son émission Champs-Élysées deux fois. Avec son nouvel album The Head on the Door, il connaît un succès mondial. C'est un peu confus ce que je viens de dire. Là, je parle de l'album des Cure, pas de celui de Michel. Bref, nous sommes le 4 octobre 1986. Le journal anglais Record Mirror regarde l'émission et écrit dans ses pages « The Cure, c'est l'événement le plus marquant en France depuis que le cœur de Jeanne d'Arc a refusé de brûler à Rouen. »
Bonsoir, Bienvenue sur Antenne 2, merci de votre fidélité. Vous pouvez vous demander qui étaient ces quatre Anglais que le générique a réveillé en sursaut. Eh bien dites-vous, vous savez, ceux qui sont si bien coiffés. Mais je vous signale que c'est le groupe The Cure et que pour la première fois depuis que Champs-Élysées existe, il y en a qui ont osé proposer de l'argent, et beaucoup d'argent, aux spectateurs de Champs-Élysées qui avaient des places pour pouvoir assister à l'émission. Je ne les avais jamais vus, mais je n'ai pas eu le temps
moi
de les voir.
Moi non plus, mais je les ai vite reconnus. Hein.
Voilà, The Cure, c'est un groupe anglais du nord de l'Angleterre. Ils ont un succès fou, hein, et oui, ils ont un look qui va encore plaire à ma mère. Ils vont venir maintenant en direct dans la salle, vous chanter leur dernier tube. Je vous signale que The Cure, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment.
Mais Michel fait la gueule, parce que le groupe a décidé de s'habiller avec des robes à grosses fleurs. Et ceux qui le connaissent voient tout de suite qu'il y a un truc qui cloche. Aucun des musiciens n'est à sa place. Ils ont échangé leur instrument. Alexandre Breton.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pied de nez, en fait. Vous nous prenez très au sérieux, vous nous prenez pour un phénomène de mode. On parle de Curemania en France, il y a des millions de clones, etc. Bon, très bien. Mais en fait, tout ça, pour nous, c'est une farce. La mélancolie est très sérieuse, l'écriture est très sérieuse, mais ne nous prenez pas au sérieux. Mais ça montre ce versant, comme ça, toujours prompt à l'autodérision chez les Cure. Intéressant avec Cure, c'est qu'il y a toujours cette ironie mordante. Ça colle avec l'époque parce que ça ne cesse d'en montrer le ridicule. Il y avait cette phrase, je me rappelle, parce qu'il y a toujours des citations sur les albums des Cure. On dit, il y avait cette citation de Jules Renard, cherchez le ridicule en toute chose, vous le trouverez. Je crois que Smith était vraiment quelqu'un qui a toujours une profonde dimension ironique, teintée d'un grand humour. Et en fait, c'est renvoyer à ce monde sa farce. Parce que finalement, il y a quelque chose qui est aussi de l'autoparodie. C'est-à-dire qu'il n'est jamais très dupe. Parfois, il dit, ouais, ce sont des chansons un peu stupides. Mais c'est stupide comme ce monde est stupide, parfois. Il y a quelque chose comme ça aussi.
Dans le magazine Rockline du 12 mai 1987, Robert Smith revient sur l'accoutrement qu'il portait dans Champs-Élysées ce soir-là. Il a déclaré « Si on s'est attifé en robe, c'est pour se foutre du groupe Indochine. Comme ils essaient de nous imiter, on voulait savoir si eux aussi s'habilleraient en robe. » Ce morceau, Close to Me, entre dans les oreilles autant que dans les rétines, grâce au clip réalisé par le vidéaste Tim Pop. On voit le groupe enfermé dans une armoire, qui ressemble à un cercueil, et qui tombe d'une falaise. Tim Pop définit l'univers visuel du groupe avec Robert Smith dès 1982, et il réussit à mettre en image la mélancolie autant que le côté blagueur des Cure. Dans la vidéo de Love Cats, par exemple, Lauren Stallhurst est déguisé en chat. Il raconte « Contrairement à une croyance populaire, on n'était pas des gothiques au visage pâle qui passaient leur temps à pleurer dans des chambres sombres éclairées à la chandelle. On avait quelques fans comme ça, dont deux japonaises, très gentilles, qui pleuraient dès qu'elles nous voyaient. On les appelait morosité et obscurité, mais gentiment bien sûr. Pendant la tournée, on écoutait souvent les chansons du Livre de la Jungle et des Aristochats. » Juillet 1989, The Cure est à nouveau sur Antenne 2, mais cette fois parmi les informations du journal de la nuit.
Le retour du groupe de rock The Cure. Ils ont donné deux concerts hier et ce soir à Bercy et viennent de sortir, après deux ans d'absence, un album intitulé Désintégration. Et la Curemania fait des ravages chez les corbeaux. C'est ainsi qu'on appelle les fans de Cure. Vous allez comprendre pourquoi avec ce reportage de Christophe Tison.
Après les rockers, les skinheads, les punks, voici maintenant les corbeaux, une étrange tribu qui rassemble les milliers de fans du groupe anglais The Cure. Venus de toute la France, ils ont envahi ce week-end les rues et les magasins de la capitale, direction Bercy, pour assister aux deux concerts parisiens de leur groupe fétiche. Et surtout pour voir Robert Smith, le chanteur à qui ils vouent un véritable culte. Avec 8 millions d'albums vendus, l'idole des corbeaux est devenue le symbole d'une génération au teint pâle et aux idées plutôt noires.
Les gens, quand on s'habille en noir, ils croient qu'on est triste, tout. On est le reflet de leur société de merde, quoi.
Bon, en vrai, on a plus la joie de vivre qu'eux.
Là, on voit des hordes de fans qui ressemblent tous à Robert Smith. Alors, il y a la musique, certainement, elle doit avoir cet effet de, peut-être d'antidote. Après tout, Cure se présente bien comme un remède ou un antidote à quelque chose.
Est-ce que ça veut dire ça, le nom du groupe, ça veut dire
Cure, c'est le remède, voilà, le remède, l'antidote. Mais je pense qu'il y a aussi le personnage, parce que ça s'est quand même greffé beaucoup autour du personnage de Robert Smith. C'est l'alien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est indéfinissable, qui n'est pas sexuellement défini. C'est un homme, une femme, c'est un être humain, surhumain. Il est bon, et je pense que ça fait écho avec quelque chose qui est très propre à l'adolescence, cette espèce d'indécision. C'est un âge mouvant où justement le caractère indéfini du personnage de Robert Smith, qui n'est pas normé, qui n'est pas, je veux dire, ça faisait peur. Je me rappelle de mon père, il hurlait quand il voyait Robert Smith. Voilà, c'était horrible. Et puis peut-être quand même que ça a catalysé quelque chose qui était propre aux années 80 pour le coup, c'est cette dimension très androgyne quand même.
Chinoise, on reconnaît Robert Smith avec le dessin de sa coiffure en pétard. Le kohl à ses yeux, le rouge à ses lèvres sont devenus tellement célèbres qu'au milieu des années 80, son visage est quasiment un logo. Dans un hors-série des Inrecuptibles, Géraldine Serratia a écrit « Le look de Robert Smith est entré dans la mythologie du XXe siècle au même titre que la déesse et le frigidaire, cher à Roland Barthes. Les lèvres de Robert Smith sont partout, tandis que le groupe n'est pas ou à peine visible sur les pochettes de ses albums. » Richard Bellia, photographe.
La musique, elle vous tombait tellement dessus comme un truc comme ça, c'était même plutôt pas mal de pas avoir leur tronche. Pour pas les idolâtrer, pour rester vraiment la tête contre les haut-parleurs, quoi.
Pourtant, l'idolâtrie, elle est arrivée après, hein.
Ah oui, alors l'idolâtrie Cure, ça je l'ai vu, ça. Oh, ça je l'ai vu arriver comme un accident au ralenti. Beaucoup de gens passaient leur soirée dans leur salle de bain et à faire des tests avec leurs cheveux. Et voilà. Pas moi, jamais.
Mais ce qui est assez étonnant avec Robert Smith, c'est que c'est l'une des figures du rock les plus fortes par le personnage qu'il a construit, non?
Ça, c'est sûr et certain. Et vous rencontrez même des musiciens qui détestent The Cure. Vraiment, qui détestent la musique en disant « Mais qu'est-ce qu'il arrête de pleurnicher? Qu'est-ce que c'est son problème à celui-là ?» Et qui, pour autant, vont dire « Respect, quoi. Bordel, il y est vraiment arrivé. Il l'a tenu, sa barque. Il l'a... » Il copie personne. On voit bien que ce qu'il raconte, c'est ce qui se passe dans sa tête et qu'il se tient à ça. Voilà. Vraiment, Robert Smith, il envoie cette espèce de truc. Et je l'ai vu une fois avec ses parents. Genre, Robert Smith, son papa et sa mère, mais dans un rayon de 300 mètres, personne ne respire. C'est les scènes de Marie-Antoinette, quoi. Les mecs, il y a une espèce de puissance d'elle-même, quoi. Voilà. Donc, ils sont accessibles, mais par contre, ils coupent un peu la chic aux gens, quoi.
En 1987, The Cure continue sur sa lancée de la gloire avec l'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Ceux qui suivaient le groupe depuis ses débuts regardaient les nouveaux convertis avec condescendance, en mode « les Cure, c'était vachement mieux avant, avant que ça ne soit pop et commercial, je veux dire ». On répondait « ah ouais, carrément ». Et on n'en pensait pas un mot. En 1987, Jenny Beth a 3 ans et c'est bien plus tard qu'elle s'offre l'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, parce que la pochette, avec le gros plan sur les lèvres humides de Robert Smith, l'intrigue.
Et je crois que même si ce n'était pas le meilleur, le fait que c'était mon choix et le fait que c'était aussi une découverte à part, que personne ne m'avait dirigé vers cet album-là, et quelque part, ça reste plus, quoi. C'est comme quand on fait des choses seules, je trouve que quand on fait des choses seules...
Ça reste à soi pour toute la vie.
Voilà, ça reste à soi. Et encore une fois, il arrivait toujours à faire des tubes. Il y en avait toujours un, même si l'album n'était pas parfait, il y en avait toujours un.
L'un des tubes de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, c'est ce morceau, Just Like Heaven, donc. Une chanson qui raconte l'amour absolu et l'aliénation que ça suppose. Rappelons que Robert Smith est l'une des rares pop stars à être marié avec la même femme depuis plusieurs décennies. La musique de Just Like Heaven est entrée dans tous les foyers de France, ou presque, avant même sa sortie, puisque le groupe l'avait offerte à l'émission Les Enfants du Rock, pour son générique.
Génial avec les voix comme celle de Robert Smith, c'est que la seconde où on l'entend, on le reconnaît. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le minimalisme dans la voix. Il y a du crier, mais c'est toujours très sec. Il n'y a jamais de superflu dans ce qu'il fait dans la voix. Et en même temps, on a l'impression qu'il chante dans sa chambre. Donc, on est très, très, très proche de sa voix. Il nous chante ça dans l'oreille, quoi, dans le creux de l'oreille. Il est avec nous, dans la chambre d'ado dans laquelle on l'écoute. Il est là, quoi. Il est tout près.
Show me, show me, show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said. The one that makes me love, she said. And threw her arms around my neck. Show me how you do it. And I promise that I'll run away with you.
Alexandre Breton.
I'll run away with you.
C'est étrange parce qu'en fait, elle a à peine changé. C'est-à-dire que quand on écoute Robert Smith dans ses tout derniers albums, c'est presque la même voix. Il a un timbre mouillé. C'est une voix qui semble toujours ravaler un sanglot. C'est pas la voix grave des groupes auxquels on a associé Cure, c'est-à-dire des groupes sombres, gothiques. Non, c'est une voix plutôt plus claire. C'est-à-dire que c'est une plainte. Ça ressemble toujours à une espèce de long traîne plaintif, quoi.
Ça fait plus de 40 ans que la voix de Robert Smith nous fait entrer dans ses cauchemars, tantôt dans un éclat de rire, tantôt dans un sourire triste. Beaucoup ont dansé dessus, mais même ont pleuré aussi. Plus de 40 ans d'une aventure musicale, avec un groupe à géométrie variable au fil des engueulades ou des cures de désintoxication. Plus de 40 ans de musique qui ont ouvert la voie à plein d'autres. En 1979, à la sortie de Three Imaginary Boys, premier disque de The Cure, le Melody Maker titrait « Les années 80 commencent ici ». Et elle se termine là, avec un album justement intitulé « Disintegration ». Ce Pop and Cure, on a beaucoup utilisé Cured, autobiographie de Lawrence Tolhurst, parue chez Le Mot et le Reste. Il y a aussi The Cure Never Enough de Jeff Apter aux éditions Camion Blanc. Je tiens à signaler un ouvrage qui s'intitule Friction, ce que la littérature a fait à la musique et ce que la musique en a fait. C'est signé Yann Courtiot. Quant aux photos de Richard Bellia, B-E-2-L-I-A, vous pouvez les retrouver dans un livre, Un œil sur la musique 1980. 2016, et c'est une photo de Bellia qui fera la couverture d'une somme à paraître sur le groupe sous le titre Curepedia. Après cette plongée dans les années 80, bienvenue en 2022. Et en Angleterre toujours avec une fille géniale qui s'appelle Niloufer Yanya.
La semaine prochaine, Pop & Co et Jacques Dutronc suivra un épisode avec du Stéphane Escher, Serge Gainsbourg, Pink Floyd ou encore du Michel Delpech dedans, grâce à un homme qui s'appelle Dominique Blanc-Francard. Koy Nguyen a réalisé cette émission avec Thomas Langlin ce matin, Ilinka Negulesco assure la préparation de Pop & Co et Jean-Baptiste Audibert aiguille la programmation musicale. Comme j'ai déjà annoncé les futurs épisodes, il ne me reste plus qu'à vous dire à samedi.